بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخان الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de vivre ces jours de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le 23e du mois béni de Ramadan. Et par la grâce d'Allah, nous avons également la possibilité de nous asseoir quelques instants pour essayer d'avancer un peu dans notre dîn. Vous avez certainement vu l'intitulé de l'intervention qui tourne autour de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal pour avoir et pour connaître une vie épanouie de ce dunya. L'objectif de l'intervention, après l'introduction, après tout ce qui est en rapport avec le Ramadan, tout ce qui nous est profitable par rapport au cœur, l'objectif, il y a des fois c'est bien de fixer l'objectif au début, au moins on voit le fil conducteur, on essaie de voir où est-ce qu'on va, et on essaie de, étape par étape, essayer d'atteindre les objectifs. L'objectif final, c'est de réaliser que, et là je vais vous choquer, que la pratique complète de la religion n'est pas suffisante pour connaître le bonheur de ce monde et de l'au-delà. Alors, ils disent, est-ce qu'on va le pendre? Est-ce qu'on va le crucifier? Est-ce qu'on va le découper en morceaux? C'est le discours qu'on entend, la pratique du dîn. Mais je joue un peu sur les mots, nuance. L'objectif, c'est de réaliser que la pratique, entre guillemets, brute, la pratique, j'aime pas le terme irréfléchi, mais vous avez compris le sens, une pratique sans basira, sans vision, une pratique des actes, des rituels, n'apporte pas au cœur ce qui est suffisant pour que le croyant trouve à sa'ada fi dunya wal akhirah. Même si mon devoir envers Allah est accompli, même si les objectifs sont atteints, si on fait un hisab, les faraz, ils sont, les wajibat, ils sont, les sunan, ils sont, mais s'il nous manque quelque chose dans notre cœur en rapport avec le tawhid, l'unicité d'Allah, s'il nous manque une connexion, une relation avec Allah Azza wa Jal, si on n'a pas ça, ces actions-là ne vont pas porter la lumière qu'elles sont censées apporter. Combien de temps les sahabas ont appris le iman à Mecca? 13 ans. C'est un chiffre qui est vrai ou qui est approximatif? On a l'habitude de dire qu'ils ont appris 13 ans, mais ce n'est pas vrai, ils ont appris tout le temps. À Mecca, ils ont appris l'iman, à Madina, ils ont appris le iman. Mais à Mecca, tout le Mukarrama, cet apprentissage n'était pas accompagné d'un pilier, du moins jusqu'au voyage nocturne. On peut se dire que les sahaba ne faisaient pas namaz, il n'y avait pas de namaz faraz, mais comment ils se rapprochaient d'Allah? Ben, subhanallah, le niveau de foi dépassait tout ce qu'on peut imaginer sans qu'il y ait une action obligatoire à propos de laquelle il y avait une assiduité demandée. Et lorsqu'ils ont eu le cœur rempli de iman, lorsqu'ils ont appris à connaître Allah Azza wa Jal, le cœur était rempli de cette énergie positive, de cette nour surtout, de cette lumière qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzah a révélé la salat lors du voyage nocturne, cette salat, c'était le buraq à eux. Cette salat, c'était le buraq. Quand le prophète alayhi salat wa salam est monté au ciel sur cette monture, cette salat était le buraq et c'est censé être le buraq de chaque mu'min. Mais nous, la salat ne nous permet pas de décoller. C'est un constat d'échec. C'est un constat réaliste de la salat au dhuhr. Si on avait essayé d'expliquer un petit peu la dernière fois, la semaine dernière au tampon, très souvent on se dit que si je veux avoir la concentration, la dévotion de la salat, il faut me faire namaz d'un bon imam. Et c'est quoi un bon imam? C'est un imam qui lit vite, bien sûr. Un bon imam, c'est quelqu'un qui lit bien, qui a une intonation qui nous transporte, qui nous dit que là, ça c'est imam. Maintenant, celui qui a une lecture monotone, même si le tajwid est parfait, même s'il y a khushu à la lecture, mais on n'a pas assez voyagé. Nous, on aime bien les monter, descendre, passer, descendre, première, accélération, et ainsi de suite. Ça, c'est un bon namaz. Allah musta'an. Mais nous, on a essayé de prouver, la semaine dernière, on a essayé de prouver Allah Akbar, on a essayé de voir ensemble que les sahaba, ils pouvaient trouver la dévotion dans la salat au dhuhr, d'ayya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une salat sirri, une salat silencieuse, où il n'y a pas de tadabbur,
où il n'y a pas d'écoute de la lecture. Parce que très souvent, on associe la concentration à l'écoute, ce qui est partiellement vrai, mais par mafhoum khalafa, par compréhension inversée, ça voudrait dire que s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de concentration. Or, ce n'est pas le cas. À travers chaque salat, on doit trouver une connexion avec Allah et on doit trouver le khushu' alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc, notre objectif, c'est ça. C'est de voir que même si nous avons les a'mal de notre vie, et ça, c'est, on va dire, c'est un jugement assez sévère, mais c'est un jugement sur nous-mêmes. Et c'est, je me juge en premier. Et comme on le dit à chaque intervention, celui qui intervient, il a plus de responsabilités. Parce qu'il a eu accès à la connaissance dans les livres, et il sera le premier à juger s'il l'a mis en pratique, lui ou non. On est d'accord avec ça? Donc, c'est pas, on ne fait pas un tableau noir et blanc ou gris de notre société, mais on essaie de faire notre test qui a notre purification intérieure et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de penser, parce qu'on a une magnifique mosquée, et votre masjid est magnifique, mashallah, barakallahu fikum, c'est de croire parfois que si on a les murs, on a les édifices, notre mission est accomplie, on avance. On a juste à comparer la société de Madina, comment était la masjid construite par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quoi c'était fait, quel était le confort qu'il y avait dans cette masjid, et de voir dans cette masjid les, subhanallah, les lumières qui en sont sorties. On a besoin de comprendre que très souvent on caricature notre société. Là, entre nous, on peut le dire, on est souvent très fiers du niveau de lecture de nos imams. On est souvent très fiers du nombre de ulama que nous avons et la qualité des interventions, alhamdulillah. On est souvent très fiers du nombre de hafiz al-Qur'an. On est très fiers de ça. C'est surtout ce dernier point-là. Mais on a l'impression qu'avec ça, les objectifs sont atteints. Dites-moi, à quel moment quelqu'un est venu nous juger et dire que l'objectif est atteint? Personne. Parce que de ce dunya, personne ne juge personne. Vous savez quand est-ce qu'on va savoir si l'objectif est atteint ou non? Vous savez quand est-ce que je vais savoir est-ce que ma barbe de 15 cm m'a été profitable ou celle de mon frère qui est moins importante était profitable? Vous savez quand est-ce qu'on va savoir tout ça? C'est de l'akhira, lorsqu'on sera jugé. Mais nous, on a besoin, on a besoin de faire notre propre compte avant qu'on fasse nos comptes. L'homme intelligent, le kayis, c'est celui qui ma'amila lima ba'd al-maut, celui qui travaille, qui œuvre pour la vie après la mort. Amila, c'est pas juste. Regardez là, subhanallah, on sort du sujet, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus croustillant dans une intervention, c'est de ne pas parler du sujet. Ce qui est magnifique dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que chaque mot réveille les cœurs. Chaque mot doit nous faire bondir, à condition de l'aimer. Aimer al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas uniquement pa'ban sunnat pa'ban, c'est aimer sa parole. C'est être amoureux de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire. J'en suis éperdument amoureux. Et je vais mettre en pratique tout ce qu'il a fait, sans distinction, parce que ça, c'est mon modèle. Et s'il s'est déplacé de cette façon, c'est qu'il y a un khair dedans. C'est l'amour sans limite pour le Habib sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le Prophète il décrit l'homme intelligent, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le Prophète aurait pu dire wa amila salihat. Le Prophète n'a pas dit que c'est celui qui accomplit les bonnes actions. Il y a un maqsad derrière l'accomplissement des bonnes actions. Wa amila lima ba'da al-maut. Pour ce qui vient après la mort, c'est-à-dire ses actions en préparation de la vie de l'au-delà. C'est ce que les ulama appellent ihtisab al-ajr, la recherche des récompenses et des rétributions. C'est ce qui fait de tes bonnes actions une bonne action. C'est ce qui fait la qualité, c'est ce qui fait le socle spirituel de toutes tes bonnes actions. Depuis le hajj que tu accomplis à, combien coûte maintenant, 15 000 euros? Non, c'est pas encore, c'est bientôt. Depuis le hajj que tu accomplis à ce prix astronomique, jusqu'à ce, et je ne minimise rien, jusqu'à ce subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, le tasbih que tu fais. Si on a su introduire l'ihtisab al-ajr, ces a'mal salihah vont nous apporter quelque chose d'énorme. Parce qu'ils nous permettent de faire le lien entre ce que j'accomplis et ce que j'attends. Et là, il y aura ikhlas. Pourquoi il y aura ikhlas? Parce que là, du coup, quand tu réalises que cette action n'est pas une finalité en elle-même, est-ce qu'Allah a besoin de notre bonne action? La yanal Allah luhumuha, wala dima'uha, wala qiyanaluhu taqwa minkum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون de l'adhbiha, de l'udhiya. On retrouve Allah Rabbul Izzah dit clairement, c'est pas l'animal, c'est pas la grosseur. On connaît les versets, pour Bakri vous aurez l'occasion de l'écouter. C'est pas ça qui compte, c'est la taqwa qui atteint Allah Azza wa Jalla. C'est la taqwa qui intéresse Allah. Dans le jeûne, c'est pas la faim, c'est pas la soif qui intéresse Allah Azza wa Jalla. C'est notre progression vers lui. C'est le sens que je vais donner à cette faim, à cette soif, à cette fatigue, à ce manque de sommeil. Regardez-vous dans le miroir après une nuit impaire. Ça fait peur. Normalement, ça doit faire peur. Après une nuit impaire, sauf notre tonton Kasi qui est toujours beau. On ne peut pas l'oublier, lui, machallah. Quand on se regarde après le 23e, le 25e, le 27e, après le Fajr, ça te fait peur. Si on a la bague de la chemin, tout de suite, il dit que ce gars-là n'est pas net, il y a un problème. Mais vous croyez qu'à cet instant, Allah regarde notre apparence? Est-ce qu'Allah regarde comment il est beau? Est-ce que Allah aime la beauté, mais est-ce que c'est le... Allah Rabbul Izzah regarde ce qu'il y a au fond là-dedans là. Cette nuit que tu as passé pour lui, ces efforts que tu as fait, c'est ce qui intéresse Allah Azza wa Jalla. Donc, à travers chaque bonne action, si on est capable de réaliser que l'action n'est pas un objectif en soi, mais c'est un wasila, c'est un intermédiaire pour qu'Allah soit satisfait de moi. Et du coup, quand tu arrives à faire à créer cette équation, automatiquement tu vas le faire avec ikhlas. Il y aura la sincérité. Parce que tu as réalisé que tu le fais pour Allah. Je ne prie pas pour faire namaz. Je ne prie pas parce que c'est un pilier de l'islam. Je ne prie pas parce que Moulissa m'a appris à l'école ou mes parents m'ont éduqué de la sorte. Ça c'est le cadre. Je prie parce que je suis amoureux de mon Seigneur. Je prie parce que j'aime Allah et ça c'est taqarrub ila Allah. C'est ce que je prépare et je montre à Allah ma bonne volonté, mon amour pour lui. Ça se manifeste des façons qu'Allah a rendu licites, c'est-à-dire les a'mal, les ibadah qui sont mawquf, qui sont limités par rapport à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. C'est le nectar, c'est l'essence des bonnes actions qu'on a besoin de trouver. Et quand on essaie de trouver la piété à travers le Ramadan, c'est trouver la piété à travers l'essence, même la taqwa, la recherche du contentement d'Allah azza wa jal. Et donc, justement, notre objectif, c'est de se rendre compte que nous avons une vie remplie de bonnes actions, mashallah. Nous avons une vie remplie de bonnes œuvres, mashallah. Mais malheureusement, on n'arrive pas encore à décoller parce qu'il nous manque un pilier. Vous avez le pilier qui nous manque, c'est amusant, hein. Mais c'est le pilier que les sahaba, ils ont pris le plus de temps à construire, à renforcer et à embellir. C'est al-iman billah. On ne croit pas suffisamment en Allah. On croit d'une façon superficielle. Allah est unique, ce qui est la base, qulullah wahed. Mais on ne connaît pas suffisamment. On se prive d'une connaissance qui a été décrite par les ulama de l'aqida comme étant une des plus belles ulum, une des plus belles connaissances qui apporte énormément aux croyants et qui ne nécessite pas un haut niveau de préparation. C'est pas extrêmement technique comme usul al-fiqh ou tajwid ou le tafsir ou ulum al-hadith. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde à condition d'y faire un effort et les résultats sont énormes. Et quel est ce ilm? C'est iman billah, c'est connaître Allah azza wa jal. C'est apprendre à connaître asma wa sifat, les noms et les qualités d'Allah azza wa jal. Ça va changer notre conception du ibadah. Ça va donner une autre ampleur à nos ibadah. Mais ce n'est pas tout. On ne s'arrête pas là. Parce que l'intitulé, c'est vivre des jours heureux. Ce n'est pas uniquement soit heureux dans la mosquée. Vivre des jours heureux. Ayyam dunya. On va essayer de voir que, en étudiant les noms d'Allah Azza wa Jal, je vais être heureux et apaisé dans toute ma vie. Pas uniquement la mosquée. C'est pas uniquement un ilm qui me sera profitable dans mon lien avec Allah, non, dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va m'apporter une sérénité où on ne trouvera pas l'équivalent si ce n'est chez quelqu'un qui a appris autant que vous ou alors plus que vous. Ikhwani fillah, justement, nous sommes reconnaissants envers Allah Azza wa Jal qui nous a donné la possibilité depuis 22 jours donc, ou 23, de faire nos 5 salats, de faire nos namaz nafil, de faire notre carême de façon consciencieuse. Notre somme, les doigts, la sadaqa, la lecture du Coran, le dhikrullah. Comme j'ai dit, toutes ces actions-là, on les fait régulièrement. Il n'y a pas une personne qui, après quelques jours de Ramadan, dit « C'est bon, je ne vais plus masjid. » C'est pas possible. Tellement on a ta'zim, on a l'importance de ce mois dans notre cœur. Chers frères et sœurs, après ces 22 ou 23 jours également, on a en nous un nour, une lumière qui vient de cette relation avec Allah Azza wa Jalla à travers ses bonnes actions. Et les savants disent que c'est là un grand bienfait de ce mois béni, c'est la proximité avec Allah. La proximité et le lien qu'on est en train de construire avec Allah, et le fait que le cœur s'imprègne de cette lumière qu'on trouve dans la salat, dans la lecture du Coran, jour après jour. Et le cœur se remplit d'amour pour Allah Azza wa Jal. Un des objectifs de ce mois béni, c'est l'éveil du cœur. C'est quoi un cœur éveillé? Un cœur éveillé, c'est le contraire d'un cœur qui dort, ou pire, qu'Allah le protège, un cœur qui est mort. On a le cœur qui est noir. C'est quoi le cœur qui est noir? C'est un cœur sur lequel il y a tellement de points noirs, conséquences des péchés, pour lesquels le croyant n'a jamais pensé à demander pardon. Alors que ça, c'est un signe, c'est ce qui est propre à chaque croyant. Tout de suite, quand on commet une erreur, quand je réalise que j'ai désobéi à Allah, encore faut-il le réaliser immédiatement, le mu'mine pense à Allah et il demande pardon. Et Allah promet qu'il pardonne. Maintenant, ce cœur noir, c'est ce cœur qui ne pense jamais à Allah et qui est envahi par les péchés. Et c'est un cœur qui n'entend plus, qui ne répond plus. Après, on a le cœur qui est vivant, où il n'y a pas beaucoup de péchés. Il y a des bonnes actions, mais c'est un cœur de lequel l'amour d'Allah ne s'est pas suffisamment installé. Où il y a juste la connaissance de Iman Billah superficielle, comme on a dit tout à l'heure. Ben justement, mes chers frères, si on accomplit ces amal de Ramadan avec la basira, avec la clairvoyance qu'on va essayer d'aborder, on va bénéficier, Inch'Allah, de cette lumière. Et la piété, comme on parle de taqwa, et le fait de rester conforme, de respecter les ordres d'Allah, de respecter le wahi, de respecter la sunna, autant dans le discours, on a l'habitude de dire que c'est source de récompense sans le moindre doute, mais c'est également ce qui nous permet d'avoir l'éveil du cœur. Un cœur éveillé, à condition que les actions soient accomplies avec clairvoyance. Alors, qu'est-ce qu'un cœur vivant? C'est un cœur qui est habité par la piété. Un cœur vivant, c'est un cœur qui, après chaque bonne action, se remplit d'amour pour Allah. Un cœur vivant, c'est un cœur qui aime Allah. Un cœur vivant, c'est un croyant qui connaît son Seigneur. Et voilà la phrase clé. Un cœur vivant, c'est le cœur d'un croyant qui connaît Allah Azza wa Jal. Parce qu'on ne peut pas aimer Allah réellement sans le connaître. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. On ne pourra jamais aimer, vraiment Allah à 100%, plus que tout le monde, si on ne le connaît pas. Et comment connaître Allah ? Par le biais des versets qu'Allah a révélés, dans lesquels Allah décrit sa personne. Zatuhu, wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi, wa shahadahu ar-rahmanu ar-rahim, et tous les autres versets et les hadiths dans lesquels il y a les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, retenons ces deux phrases clés. On ne peut pas aimer Allah réellement sans le connaître. Ça, c'est impossible. Si je connais, ma seule connaissance d'Allah, c'est qu'il a tout créé. Il est unique, et quand je meurs, je retourne vers lui, ce qui est déjà trois points importants, essentiels. Mon amour pour Allah n'atteindra pas le niveau de celui des sahabes, parce que ma connaissance est limitée. C'est comme si on a des récipients. Tu as trois récipients, au lieu d'en avoir 99. Même si tu les remplis, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui a un cœur riche, contrairement aux sahabes. Et tout comme on ne peut pas être un vrai musulman sans aimer Allah plus que tout le monde. Qu'est-ce qui fait que les sahaba étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice pour Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, les longs versets. L'histoire de la bataille de Tabouk où Abu Bakr al-Siddiq donne tous ses biens. Le prophète demande à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Abu Bakr dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut avoir une telle réaction? C'est que ce cœur est rempli d'amour pour Allah. Et un cœur rempli d'amour, ce n'est pas uniquement à la façon un peu, j'aime Allah, c'est mon Seigneur et tout, philosophique, ou parfois islamologue. Non, 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 non. Il n'y a pas de... rigole pas avec ça. C'est un amour qui est basé sur la connaissance des qualités et des noms d'Allah. Là, ça te donne une vision, enfin, une idée, un aperçu de ce qu'Allah a voulu nous faire voir de ce dunya concernant cette personne. Et là, tu remplis la première condition, al-imanu billah. Un cœur qui aime Allah, c'est un cœur qui connaît Allah. On va regarder cette phrase. C'est un cœur saint, un cœur qui aime Allah et qui connaît Allah. C'est un cœur saint qui ordonnera aux membres de rester sur le droit chemin, sans qu'il y ait un gros effort à produire. Que le prophète dit que Allah, il y a de le corps de l'homme, moudra, une partie. Si cette partie est saine, c'est tout le corps qui ira bien. Autrement, ça va mal. On connaît le hadith, c'est le cœur. Si le cœur est saint, il y a l'amour pour Allah, il y a connaissance d'Allah Azza wa Jal. Ce cœur ordonnera aux membres de se soumettre à Allah, Ramadan ou pas Ramadan. C'est-à-dire qu'on arrive au degré de istislam lillah et on arrive au degré d'ihsan, le plus haut degré de foi. Un cœur qui aime Allah et qui connaît Allah, c'est un cœur qui va te permettre d'avoir la basira, cette fameuse clairvoyance. Et quand on a la basira, on voit le bien dans toutes les décisions. Allah te permet de voir le bien dans toutes tes décisions et tu ne te trompes pas. On prend toujours les bonnes décisions. Quand on a la basira, Allah te permet d'adopter le meilleur des comportements dans toutes les situations de la vie. Allah te permet d'être positif. Allah te permet d'être optimiste, d'aimer la vie. Allah te permet d'aimer la vie. Ça veut dire quoi aimer la vie? C'est pas hubbud dunya. Aimer la vie, c'est comprendre que chaque jour c'est un ni'ma. Chaque jour, c'est un bienfait. C'est respecter la vie. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. On sortira pour la sixième fois du sujet. Quelqu'un qui aime Allah, c'est quelqu'un qui ne fera jamais du tort à son prochain. Et toutes ces personnes qui font tout et n'importe quoi, pas besoin de faire un tableau, on en a ras-le-bol de tous ces discours. Les personnes qui font tout et n'importe quoi au nom d'Allah, qui disent Allah Akbar en faisant exploser la situation explosive et ainsi de suite, c'est des gens qui n'ont aucun amour pour Allah. Parce que aimer Allah, c'est aimer les créatures d'Allah. Aimer Allah, c'est respecter les versets où Allah Rabbul Izzah a décrété que la vie est sacrée. C'est réaliser qu'Allah est Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi, c'est Allah qui donne la vie. Al-Mumit, c'est Allah. Tu es qui, toi, pour prendre l'âme de quelqu'un? Allah, qui es-tu pour décréter que tu as le droit de reprendre l'âme au nom de quoi? C'est-à-dire que si l'ensemble de la Ummah apprenait à connaître Allah, on n'aurait pas, Allah musta'an, tout ce que nous voyons, et il y aurait une millah vraiment. Il y aurait une vision des choses. C'était la vision des Sahaba, Ridwanullah, Ya'im Ajma'in. Un cœur qui aime Allah et qui connaît Allah, c'est un cœur qui te fera aimer ton prochain. Parce que aimer son prochain, c'est une qualité de iman. Et Allah aime ses créatures, oui ou non? Mais nous devons aimer les créatures d'Allah. C'est-à-dire que ça, celui qui connaît Allah, c'est pas uniquement une relation qu'il va créer avec son Seigneur, c'est également une relation, ce qu'on aime appeler l'humanisme. Cet humanisme-là, elle se trouve au sein de l'iman billah. Un cœur qui aime Allah et qui connaît Allah, c'est un cœur qui va apprécier chaque jour de la vie, même si c'est un jour difficile. Même si c'est un jour où du matin jusqu'au soir, tu as des difficultés, des épreuves. Et pourquoi il va l'apprécier quand même? Parce que c'est un jour qui a été décidé par Allah. Aimer Allah, iman billah, ça te permet d'arriver jusqu'à la sixième branche, la foi sur le destin. Celui qui aime Allah réellement, il développe iman bil qada et wal qad avec une grande facilité. Alors que c'est la branche la plus difficile, la plus complexe, et peu de gens atteignent le summum de la foi dans iman bil qada et wal qad de le destin. Parce que c'est extrêmement complexe à comprendre. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut y croire et accepter. Mais celui qui aime Allah, il accepte chaque jour de sa vie, parce que ça c'est yawm min ayyam illah, c'est le décret d'Allah. Vous voyez la perspective énorme et ce que ça fait de nous, un croyant ouvert, un croyant qui vit, un croyant qui apprécie la vie, qui aime son prochain, mais qui aime Allah avant tout, parce qu'il a compris sunnatullah, comment est-ce qu'Allah a organisé ce dunya, et il accepte toutes les décisions d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, pour vivre heureux, mes chers frères et sœurs, et apprécier chaque instant de la vie. Comment aimer la vie en aimant Allah? Ben, c'est justement aimer, comment apprécier chaque joie de ce dunya en attendant le akhira, le retour auprès d'Allah. Il faut absolument développer l'iman billah, apprendre à connaître Allah. Comment est-ce qu'Allah agit avec nous? Comment Allah gère ce dunya dans sa sagesse? Et là, on va aimer Allah plus que tout le monde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah pour émigrer à Madina, accompagné de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'ils étaient dans la grotte et que les ennemis étaient très proches, tout le monde connaît cet épisode de l'histoire. Les ennemis étaient tellement proches, au-delà de l'aspect mu'ajiza, l'araignée, le nid de colombe, mais ils étaient près de la grotte, ils faisaient leurs besoins, preuve qu'ils n'avaient pas conscience que les personnes qui cherchaient étaient dans la grotte. Abu Bakr radiallahu anhu voyait les pieds des a'da, de ses ennemis. Abu Bakr a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit, le sens du hadith, il suffit que cette personne-là baisse sa tête, il regarde au niveau de ses pieds et il nous voit au Prophète d'Allah. Et Abu Bakr avait très peur. Abu Bakr, c'est peut-être la seule fois de sa vie où il a eu peur. Parce qu'Abu Bakr était un homme qui n'avait jamais peur. Il avait toutes les qualités qu'on peut imaginer. Mais il avait peur, pas pour lui, bien au contraire. Quand il marchait avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait devant. Après, il changeait de position, il allait derrière. Après, il allait à droite. Après, il marchait à gauche. Connais l'histoire. Pour ça, dire Abu Bakr, c'est quoi ces, en ce sens, ces changements d'attitude, de ta démarche? Tu vois, Nabiullah, il y a des fois où je pense, si l'ennemi arrive en face et qu'il envoie une flèche, je préfère être devant pour prendre cette flèche et mourir. Et toi, Nabiullah, tu es sain et sauf. Puis je me dis que, mais s'ils arrivent par derrière, donc tout de suite, je me mets. Vous avez compris comment son muhabba, son amour pour le Prophète était kamil. Complet. Son amour pour Allah était complet également. Donc il n'avait pas peur pour lui. Il était prêt à donner sa vie maintenant, à n'importe quel instant, pour Nabiullah et pour Allah avant tout. Il avait peur que les ennemis voient le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut la réponse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une réponse ajib et qui était accompagnée d'un verset. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ou Abu Bakr, que dire de deux personnes, c'est-à-dire de nous deux, alors que la troisième personne qui est avec nous, c'est Allah. Quand dans ton cœur, il y a ce tawakkul en Allah, qu'on va essayer de voir peut-être aujourd'hui ou une autre fois, quand tu as réalisé qu'Allah, il est al-hafir, Allah, il est al-kafi, quand tu as réalisé le sens profond de hasbunallahu wa ni'mal wakil, ben, oh Abu Bakr, tu peux avoir l'ennemi près de ton nez, l'ennemi qui est déchaîné, à qui on a promis, je crois, on avait promis 100 chameaux, qui voulait absolument, il voulait que ça attraper, pour ça, on peut avoir l'ennemi qui a quelques centimètres de nous, mais avoir un cœur totalement serein et apaisé, parce qu'on est dans les mains d'Allah. On est avec Allah, Allah est avec nous. Et Allah Rabbul Izzah a révélé le verset, « La tahzan, inna Allaha ma'ana ». Sens du verset, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et il y a un savant qui a écrit Al-Qarni, Hafidhullah, il a écrit un livre également qui s'appelle Ne sois pas triste. Et à travers lui, il essaie de faire comprendre que si tu aimes Allah, si Allah est avec toi, khalas, tu surfes sur les ayam ou dunya jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal. Mais cela nécessite un haut degré de iman. Et quand on dit surfer sur les ayam ou dunya, sur les jours qu'on vit, c'est passer au-dessus de toutes les critiques, toutes les difficultés, toutes les injustices, toutes les frustrations, tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous touche dans notre santé, dans nos biens, dans notre famille, on se dit que tout ça, c'est la décision d'Allah. Je me montre patient et je fais istislam lillah jusqu'à rencontrer Allah. C'est un discours facile, mais c'est une méthodologie, subhanallah, très complexe. Mais c'était la méthodologie des Anbiya, alayhi salatu wassalam. On aime bien rappeler ça dans ces programmes de Ramadan, parce que ça découle des versets de Salat al-Tarawih. Est-ce que Nuh, alayhi salam, s'était plaint une fois avec les gens, que ça fait 950 ans que je les invite? Ils ont peur. Il n'y a pas une personne qui m'écoute. Il s'est plaint avec qui? Avec Allah. Est-ce que Yaqub, alayhi salam, c'est plein une fois de ce qui s'est produit avec Youssouf et Benyamin. Qu'est-ce qu'il a dit? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ay ila Allah al-wahid al-ahad al-samad alladhi yasma' alladhi ya'lamu ma fi as-sudur. Il se plaignait uniquement avec Allah. C'était là la méthodologie des anbiya alayhi salatu wa salam, repris à leur niveau par les sahaba, vivre pour Allah. Accepter toutes les situations de la vie pour Allah. Quand Urwa, on l'annonce en voyage, l'histoire qu'on avait déjà expliquée ici il y a quelques temps, que son fils est mort. On lui annonce à papa, dit que ton fils est décédé. Réfléchis, il dit, Allah m'a accordé 7 garçons. Allah en a repris un. Allah m'en a laissé combien ? 6. Si Allah a repris, mais ce qu'il a donné, c'est supérieur à ce qu'il a repris. C'est impressionnant comme réaction. C'est la réaction du iman qui découle pas d'une assiduité par abandonnamaz. Non, certainement. Mais ça découle d'un iman ou billah qui est tellement fort, qui est tellement puissant, une conviction sur chaque nom et qualité d'Allah, qui fait qu'il lit la sunnatullah. Il voit que Allah a agi de cette façon, Allah a décidé de cette façon pour m'éprouver. Ya Allah, sami'na wa ata'na. Je réponds présent, mais Ya Allah, aide-moi à accepter cette épreuve. Et ils réalisent les objectifs, ils atteignent les objectifs, ils réussissent toutes les épreuves. C'était la qualité des anbiya, Ibrahim alayhi salam, le prophète, un des prophètes les plus éprouvés, et la méthodologie des sahaba et de ceux qui étaient après eux les pieux prédécesseurs. Donc en commentaire, les savants disent que ce mu'min qui connaît Allah, qui a cette confiance en Allah, il n'a peur de rien, il avance dans la vie et rien ne peut l'atteindre. Maintenant, cas de figure concret. Et là, on va revenir à un discours un peu plus terre à terre, après qu'on ait connu l'idéal de iman. Je suis ce musulman qui vit dans un contexte difficile, où la pratique n'est pas simple. Notre contexte, nous. Avec des facteurs de péché qui sont omniprésents, surtout dans mon travail, dans ma vie professionnelle. Je travaille dans un bureau, et voilà, dans le bureau, il y a l'ahwa, il y a les fitna, il y a tout ce qu'on connaît, il n'y a pas besoin de décrire. Dans un monde où il y a des fitna envahissants, le haram est partout. Je sors de la rue, il y a fitna. Je regarde mon portable, il y a fitna. On a compris. J'allume la télé, il y a fitna. C'est-à-dire, rester ferme, c'est exactement comme le hadith qui dit, on vient dans l'époque où rester ferme de son dîn, c'est comme tenir une braise ardente au creux de sa main. Ahlan wa sahlan. C'est notre époque. C'est notre époque. Ou rester ferme, et ça va s'empirer. Hein. Ça ne va que s'empirer jusqu'à la venue d'Imam Mehdi. Ne croyez pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Là, on ne peut pas avoir un discours optimiste. Les fitna vont s'empirer. Les ahwal vont devenir de plus en plus difficiles. Résister au péché deviendra de plus en plus compliqué. À nous d'être de plus en plus forts. Et plus on résiste dans un contexte difficile, plus on a un mujahada, plus Allah va nous aimer, va nous accepter. Parce qu'Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, heureusement, il ne juge pas nos actions de façon brute. Parce que si on prenait, ça j'aime dire, si on prenait notre salat al-dhahar accompli d'ailleurs à Mouna Hussein avec tout le muhabba et le ta'avim qu'on a appelé Allah il donne longue vie de ta'a'in, et je regarde mon namaz, hein, pas l'imam, ma salat, et on regarde la salat de Umar ibn al-Khattab d'ailleurs Abu Bakr al-Siddiq lorsqu'il était premier calife, j'ai pas besoin de compléter la phrase. On réalise que c'est incomparable. Heureusement, Allah, dans sa sagesse, ne regarde pas la qualité de nos actions. Autrement, personne n'aurait une action qui monte aux cieux. Parce qu'aucune de nos actions ne remplit les conditions, toutes les, non pas les qualités comme les sahaba. Mais Allah, dans sa clémence, regarde plein de choses. Et Allah est Rahman Rahim. Allah est clément. Allah est miséricordieux. Et à travers ce discours, j'aimerais également qu'on rectifie cette vision rigoriste, en guillemets, de la religion. Ces personnes qui se permettent de juger les gens, qui se permettent d'avoir un discours tellement rigide que pour eux, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui est dans le droit chemin, les autres sont égarés. Qui tu peux décréter ça? Qui tu peux dire que tous les autres vont dans l'enfer sauf moi? Ya akhi, Allah est Rahman Rahim. Allah connaît nos erreurs, nos manquements de l'ilm parfois, de la connaissance, nos erreurs d'appréciation. Allah connaît dans quelle vie, dans quel contexte nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je suis admiratif d'une dame, d'une personne qui a l'âge de ma maman, je précise. Et cette dame, elle a un commerce au centre-ville de Saint-Denis. Et elle vend des articles de luxe. Et c'est une personne qui, c'est une vraie commerçante, hein, c'est pas, elle ne fait pas de le détail, c'est pas un revendeur, elle importe. Elle va à Paris dans les salons, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, mashallah, elle connaît ce qu'elle fait. Et elle va dans les salons, je ne dis pas de marque, mais les grandes marques françaises, maroquinerie et ainsi de suite, les stylos, tralali, tralala. C'est-à-dire qu'elle rencontre des personnes d'un certain niveau, on pourrait dire, d'accord ? Il y en a, je suis au niveau. D'accord. Depuis son retour de Hajj, il y a 2 ans, et pignon sur un, je ne dis pas la rue, mais en plein centre-ville, d'accord ? Depuis son retour de Hajj, depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, on va dire, cette dame, elle décide de se couvrir les cheveux. Et il y a une habitude, apparemment je ne savais pas, chez les gens à La Réunion, qu'après Hajj, Une femme, elle coupe ses cheveux pendant 40 jours. C'est comme un adab. Et je me suis dit, ni'ma al-adab. Ni'ma hada, subhanallah. Même s'il n'y a pas de source, mais subhanallah, ni'ma. Quelle bonne idée. Au moins, ça permet d'avoir une certaine istiqama. Et elle a dit qu'Inch'Allah, Allah donne courage, Allah donne courage pour rester ferme et tout. Je parie que personne ne parie un euro sur l'issue de cette histoire. Ça fait un an et demi, elle garde son charme. Elle va dans les salons à Paris et... Subhanallah. Et quand je vois cette personne, je ne peux pas dire, mais je suis tellement admiratif. Et je me dis, c'est peut-être elle qui va me sauver le jour de Qiyam. C'est peut-être des gens comme ça qui vont nous sauver. Parce que nous, on est de le dîn, on grandit de le dîn, on apprend, on enseigne à Madrasa, on fait imamad. C'est notre, je ne veux pas dire que c'est notre métier, mais c'est notre quotidien. Là, on a des gens qui font, mais c'est un grand écart énorme, mujahada, sacrifice, lillah. Et il n'y a pas plus grande sincérité que dedans. Ça, c'est un niveau de ikhlas. C'est quand on dit ibtira awajillah. C'est ça, ibtira awajillah. C'est tu mets de côté le regard des gens, tout ce que tu peux perdre comme avantage. Tu dis, hada lillahi wahda. Ça, c'est pour Allah, et uniquement pour Allah. Et c'est ce qu'Allah t'a là. C'est ce que notre Seigneur regarde. C'est cette pureté de cœur. Recherche de contentement. Mais je me dis que c'est peut-être par ce genre de sacrifice qu'on nous on sera sauvés. Parce qu'il y a un tel amour pour Allah derrière ce geste. Même si tout n'est pas parfait, parce que personne... Dites-moi qui est parfait. Dites-moi qui est parfait. Je viens m'asseoir auprès de lui et j'embrasse ses pieds. Nous sommes tellement remplis de manquements et de défauts, mais quand il y a une manifestation de l'amour d'Allah de ce niveau, on se dit que subhanallah, c'est quelqu'un qui a compris et c'est quelqu'un qui est dans le... Sirat al-mustaqim. Donc je suis ce musulman qui vit dans un endroit où il y a tellement de fitna, entouré de péchés. Et j'ai une pratique qui est très moyenne de mon dîn, une pratique très moyenne. Et je vais l'avouer, c'est une pratique qui est périodique. Quand il y a Ramadan, je viens. Et quand Ramadan est terminé, ben, très souvent je pars. Quand je m'inscris au Hajj, je suis à fond. Au retour de Hajj, on reprend la vie normale, entre guillemets normale. Et depuis le premier Ramadan, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et lorsqu'on entre dans la dernière décade, et que j'entends mon Hussein, mon Mujahid, mon Fiti Muhammad, et tous vos aïma qui rappellent l'importance de Ashra Wakhir, de la dernière décade, je sais qu'il y a quelque chose d'énorme là-dedans. Mais je sais également que le Ramadan se termine dans 10 jours, ou dans 8 jours. Et là, intérieurement, je suis un peu amer. Il y a quelque chose, c'est plus comme au début du Ramadan. Vous savez pourquoi je suis un peu amer? C'est parce que je sais dans mon cœur que certainement, après le mois de Ramadan, je ne vais plus faire tout ça. Et donc, je me sens un peu hypocrite. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite tout ça? De faire plein de bonnes choses et intérieurement, je n'ai pas dit que je ne vais plus faire, hein, mais je sais la vie elle est comment, elle est faite de quelle façon. Et donc, je commence à vaciller un petit peu et à douter de moi-même et du bien fondé de mes a'mal. Attention, on joue sur une limite là. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je sais que je ne suis pas comme mon Hussein qui, quand lui va faire son tahajjud, c'est mashallah. Que moi j'ai un cumul de péchés dans mon livret de compte. J'ai tellement de gouna cumulés depuis Shawwal. Depuis le premier Shawwal de l'année dernière, j'ai fait tellement de bêtises. Et je peux vous dire toutes les erreurs. Ça peut être les gouna kabira même. Ça peut être les péchés majeurs. Je sais que je suis tellement coupable et tellement sale. Comment est-ce que je peux prétendre à un Laylatul Qadr, à une nuit qui m'apportera 1000 mois de rétribution? Intérieurement, je me dis que ça, c'est pour les pieux. Mais moi, je ne peux pas prétendre à une telle chose, c'est incohérent. Je me sens un peu mal à l'aise parce que il y a des personnes quand ils demandent pardon parce qu'ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs. Ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Mais moi, chaque péché que j'ai fait, c'était prémédité. Quand arrivé le vendredi soir, quand je faisais mashfira, enfin, pas ça mashfira, quand je faisais makr, quand je me réunissais avec mes amis, pour voir demain on va où? Quelle boîte de nuit demain soir, samedi? On parle des déjeuners normaux. Mais c'était prémédité. Quand j'avais déjà envoyé un SMS à ma copine pour que je vienne la récupérer telle heure et que j'avais déjà... Et ainsi de suite. Quand j'ai quitté ma maison, je suis parti à la banque en face parce que j'avais besoin d'emprunter 300 000 euros pour agrandir mon commerce, pour faire des travaux, autre chose, avec un taux d'intérêt. Je ne me suis pas trompé là. Je l'ai fait volontairement. Quand j'ai trouvé cette femme belle et séduisante, cette nouvelle collègue ou cette stagiaire, et que j'ai usé de tout mon charme pour essayer d'avoir ses faveurs, c'était pas par erreur ça. Je l'ai cherché, j'ai construit mon gouna, j'ai planifié et j'ai atteint mon objectif. Donc, je ne suis pas comme celui qui demande pardon, pardon, il y a ma tauba, on s'est trompé, on a fait des erreurs. Moi, je suis sale vraiment, na'oud billah. Et donc, cette personne, vous voyez, tout ce qui le tracasse et tout ce qui l'empêche de lever les mains, il va lever les mains, mais le cœur ne sera pas convaincu parce qu'il sait qu'il a un passif qui est beaucoup trop lourd. Il lui manque quelque chose, vous voyez, qu'est-ce qui lui manque? On va essayer de voir qu'est-ce qui manque à cette personne. Et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de personnes qui mettent en avant leur passé et leur péché, et qui oublient devant qui ils lèvent les mains, et qui oublient devant qui ils posent leur front. Mais ils ont oublié que la personne qu'ils invoquent, c'est Al-Ghaffar, c'est Al-Sattar, c'est Al-Ghafour, c'est Al-Tawwab, c'est Al-Rahman, c'est Al-Rahim, c'est Al-Halim. Et ce manque de connaissance, ce manquement d'iman billah, fait que la personne n'est pas convaincue dans son doua, n'est pas convaincue dans son istighfar, et n'est pas convaincue de ses efforts. Et il développe un complexe d'infériorité spirituelle par rapport aux pieux, par rapport aux ulama, par rapport aux autres. Pas parce qu'il est mauvais en lui-même. Il y a ses péchés, mais tout le monde fait des péchés. C'est parce qu'il n'a pas connu qui est Allah. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on s'est privé d'un pilier. Et les ulama disent que c'est le plus grand nour qu'un mu'min peut trouver dans la connaissance religieuse. Et plus tu vas connaître Allah, plus tu auras ce cumul de nour et plus tu vas avancer. Cette personne, il va à un moment donné développer toutes ses pensées négatives. Et ensuite, il y aura le was. Ça, c'est lui qui pense. Mais lorsque le waswasa de Shaytan va intervenir, ça risque d'être fatal. Le waswasa, c'est quoi? C'est le regard des autres. Il dit, là, ils vont me dire, là, il vient à masjid. Là, il est aujourd'hui, c'est le dernier samedi, on va dire avant-dernier, c'était hier, avant-dernier samedi. Dans 2 semaines, il sera là depuis là-bas déjà. Il sera à la villa, il sera à telle boîte de nuit, il sera en train de danser, comme d'habitude. Et là, il vient faire le grand soufi, le grand bouzouk, tu es là. Un cinéma, tout ça. Il va se dire ça. Weilul, attention à celui qui pense comme ça. Attention à celui qui pense, même s'il ne le verbalise pas. Attention. Quand un homme pieux avait dit à une autre personne, toi tu as fait tellement de péchés, Allah ne te pardonnera pas. Le prophète m'a annoncé qu'Allah a pardonné ce pécheur, endurci, qui avait l'espoir en Allah, et Allah a sévi celui qui était peut-être pieux. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme a osé dire Allah ne te pardonnera pas? Iman billahi da'if. Même si a'mal est top, le signe de prosternation, son visage est un signe de prosternation. Mais iman billahi da'if, c'est ce qui lui a poussé à dire cette parole terrible, qui n'a pas plu à Allah Azza wa Jalla. Il y a des fois un homme dit une parole, ça le précipite dans les abysses, dans les abîmes de l'enfer, et il ne sait même pas. Il est en train de chuter yom après jour après jour, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah, qu'Allah le protège. Et donc, cette personne, il a un sou'van billah, pour faire simple. Il a une pensée négative, une mauvaise pensée, on pourrait dire, à propos d'Allah, alors qu'Allah Rabbul Izzah nous demande d'avoir une husnudhan billah, parce qu'Allah agit avec nous en fonction de notre pensée à propos de lui. Et qu'est-ce qui va construire ma pensée d'Allah Azza wa Jalla? Dites-moi. C'est ma connaissance que j'ai à propos d'Allah. Si je connais les asma wa sifat et je les ai appris, ben automatiquement j'ai husnudhan billah. Et le husnudhan billah, c'est un juste milieu. C'est pas non plus que quand je fais des péchés, Allah est Rahman Rahim, toutes les sifat que m'en a dit tout à l'heure. Non. C'est également savoir qu'Allah est shadid al-iqab. C'est qu'Allah Azza wa Jalla est al-azim. Celui qui ne laisse pas, qui n'accepte pas qu'on le désobéisse volontairement et délibérément, que son châtiment est douloureux. C'est-à-dire que ça nous apportera ce juste milieu entre l'espoir et la crainte. C'est-à-dire que le sirat al-mustaqim, le ummat al-wasata, le juste milieu et surtout la basira, la clairvoyance. Et ce jeune homme, qui peut être, enfin, pas forcément un jeune, cet individu, ce croyant ou cette croyante, qui, et là on a cité quelques péchés, ça peut être n'importe quel péché, le problème, c'est pas son péché. Le problème, c'est pas son passé. Le problème, c'est son manque de iman ou billah. Et donc, La personne se dit également, et là ça se voit qu'il manque de connaissances, elle dit que allez, même si j'ai pris courage, j'ai demandé, pris courage à deux mains, et j'ai demandé sincèrement, d'accord ? Mais si après le Eid, il m'arrive de commettre un nouveau péché, il faudra attendre quand pour retrouver de telles vertus de Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il faudra attendre Laylatul Qadr. Et je vais être sale de nouveau toute l'année, mais ça sert à quoi ? Je vais où comme ça ? Cette personne n'a pas réalisé que tous les soirs, hadith, Qudsi de l'Allah Rabbil Izzad décrit kama yaliqu bihi azza wa jal, comme cela appartient à Allah. Des descriptions qui sont propres à Allah et qu'on comprend kama yuridu bihi azza wa jal, kama yaliqu bihi azza wa jal. Qu'Allah descende le dernier ciel et il demande hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Y a-t-il des gens qui demandent, qui recherchent le pardon, que je leur accorde le pardon? Y a-t-il des personnes malades qui demandent la santé? Y a-t-il des personnes qui ont besoin de quelque chose que je leur donne? Ne savait-il pas que c'est pas uniquement de le mois de Ramadan qu'Allah est aussi karim, aussi généreux, mais c'est chaque jour de l'année? C'est ce qui fait que cette personne tâtonne et hésite. Il se dit également, même si j'ai envie de faire plein de bonnes choses, moi je ne suis pas comme ceux qui, mashallah, je ne fais pas fajr même toute l'année. Et que dire de passer une nuit en ibadah? Je n'arrive pas à faire ça. Jamais je pourrais passer une nuit dans l'ibadah. Mais il n'a pas compris également, c'est d'autres noms d'Allah qu'on va essayer de voir, qu'Allah y a Shakur, Allah y a Al-Jawad, Allah c'est le généreux. Allah, dans sa générosité, yaqbalu al-yasir. Il lui suffit de très peu de la part de l'homme pour lui donner beaucoup. Hadith de lequel notre Seigneur nous annonce la bonne nouvelle. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui marche vers Allah, Allah court vers lui. Ça veut dire quoi tout ça? Fais un petit effort, mais sois sincère et Allah va t'accepter. Subhanallah, va t'ouvrir les portes du Qaboul, d'acceptation. Il y a que cette personne-là, ses cantonnés se sont passés, il ne connaissait pas suffisamment Allah, les qualités d'Allah, la clémence d'Allah, Azza wa Jal. Ce qui fait que cet homme n'est pas heureux. Il n'est pas convaincu de ses a'mal. Maintenant, si quelqu'un veut vivre vraiment ce Ramadan ou toutes les périodes fortes sur le plan spirituel correctement comme le Laylatul Qadr, la personne doit absolument connaître Allah Azza wa Jal et réaliser que ce Seigneur est capable de nous accepter et de pardonner autant de péchés que peuvent contenir l'espace entre cette terre et le ciel. Donc, quel rappel on ferait à ce jeune homme ou à n'importe quelle personne qui ne réalise pas l'impact et l'importance de ces jours qu'on est en train de vivre, qui ne réalise pas que même si mon passé, il est terrible, mon passé, il est horrible, d'accord ? Et qu'il n'arrive pas à mettre en avant la générosité d'Allah et le pardon d'Allah. Ben, on va essayer de le faire comprendre qui est ton Seigneur. On va le prendre, on va le mettre à soi près d'une table, comme à la madrasa, on va dire qui est Allah. Mais on ne va pas se contenter de dire Allah est unique, Allah il est au-dessus de nous, Allah nous a créés, Allah nous donne la vie, donne la mort. Ce n'est pas suffisant. On va l'apprendre. Allah est Ghafour, Allah est Afou avec un Ain, Allah est Halim avec un Ha, pas avec le Ain. Allah est Karim, Allah est Jawad, Allah est Shakur. 6 noms et attributs d'Allah Azza wa Jal qui pourront changer son sous-dhan billah, mauvaise pensée à propos d'Allah, en husni billah. Il faudrait rappeler à cette personne, premièrement, que dans le Coran de la Sourate Ghafir, Allah Rabbul Izzah nous rappelle qu'Allah est Ghafiri Zambi. Allah, c'est le pardonneur des péchés. Allah n'a pas dit Yaghfiru Dhunub. Allah est Ghafir. Ce qu'on appelle le Ism Fa'il, celui qui accomplit l'action, pour montrer que c'est quelque chose qui lui est propre. C'est une des qualités qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Allah est le pardonneur des péchés. Et c'est précisé mutlaqan al-dhanb, sans préciser quel genre de péché, mais également Allah Rabbul Izzah précise wa qabil at-tawbi, accueillant au repentir. Allah t'accueille, n'aie pas peur de te présenter à lui, n'aie pas honte, ne rougis pas. Rougis, oui, de tes péchés, mais ne rougis devant ton Seigneur par haya min Allah. Mais ne doute pas une seconde que ton Rabb t'accueille, parce qu'Allah, il n'est pas seulement Ghafir al-Dhanb, il est Qabil al-Tawb, il est celui qui est accueillant au repentir. Il t'accueille, que ce soit dans sa maison, dans la masjid, que ce soit chez toi, Allah Rabbul Izzah, tu t'orientes vers lui, Allah va t'accueillir. Ce jeune homme devrait savoir qu'Allah Azza wa Jalla, surat Nuh, relate les propos de son prophète, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. Et là, Allah Azza wa Jal n'a pas dit غَافِر. Allah a dit غَفَّار. Qu'on appelle en arabe ismu tafdil. C'est avec le tajdid غَفَّار, c'est pour montrer qu'Allah pardonne beaucoup. qu'Allah pardonne énormément. Et revenir un peu vers le tafsir, tout ça, ça s'emboîte. On essaie de connaître Allah par le biais des versets. On regarde le verset où Allah décrit sa clémence, son pardon. On va vers le sens du verset. On ouvre la porte au tafsir. C'est-à-dire que plus on ouvre de portes au ilm, plus on va connaître le dîn réellement. Et plus on se ferme des portes et on se cantonne, et c'est pas péjoratif, sur la simple pratique, magasin namaz, rosa kurbani, carême fini, demander de commencer à bœuf. Dans Ramadan, il y a des petits mashvera côté tati. Le matin, samedi, des mashvera, il y a ceux qui écoutent vont se reconnaître. Et déjà, ils donnent son charolet. C'est un circuit fermé. Moi, ça me fait mal au cœur. Enfin, Allah est le seul juge, on n'est pas dans le jugement. C'est un circuit tellement fermé où on a limité le dîn à un rituel, à des pratiques. Tac, tac, tac. Pas plus que ça. C'est comme un ballon de ping-pong ou de flipper. Il fait un parcours et il retombe. Quand c'est tombé, on relance. Ramadan, tac, c'est reparti. Et puis, touche au kurbani, s'il fait hajj, il donne ce zakat, il revient. Amal. Ce qui est une bonne chose, Amal, sans le moindre doute. Mais où est cette connexion avec Allah? Par le biais du aqidah, du tawhid, par le biais du ulum al-Quran, du tafsir, et par le biais de kalam al-habib, sallallahu alayhi wa sallam, par le biais du hadith. Ikhwani fillah, si on n'a pas un contact régulier avec nos ulama, avec nos savants, ben on a tout perdu. Parce que demandez aux gens la science, et le jour de Qiyama, personne de ce majlis n'aura la moindre excuse acceptée. Je ne savais pas, je ne connaissais pas suffisamment, parce qu'on avait des savants, on avait des mushaf, on avait la traduction, on avait des livres, mais avant de voir les traductions, les livres et pire les sites internet, on avait les hommes de foi, les ulama, ceux qui ont donné leur jeunesse et leur vie pour le dîn. Si on n'a pas un contact régulier, si dans une semaine, on n'a pas un contact avec Coran, à travers l'étude de tafsir, à travers au moins un hadith prophétique, on s'éloigne de l'objectif. On avance même si on a l'impression d'avancer normalement, mais on ne progresse pas. فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَقَدْ تَأَخَّرْ. Si tu n'avances pas, tu recules. عَقِدَ الْعُلَمَا دِيسَ الْإِيمَانِ يَزِيدُ وَيَنْقُصْ يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Le iman, soit il augmente, soit il diminue. Il augmente avec quoi? Tout ce qui est positif. Et il diminue avec les zonoubles, les péchés. Alors, un seul, c'est la quantité de péchés qu'on cumule, volontairement ou involontairement. Des choses qu'on peut arrêter, des choses qui vont tellement vite qu'on n'arrive pas. Mais au moins, rectifie le tir dans ce que tu peux faire. Ne te contente pas d'une salat accomplie comme un rituel depuis 35 ans, 40 ans. Connecte-toi avec Allah par le biais de la parole d'Allah. Apprends à connaître ton Seigneur. Ce n'est pas pour rien, je le prends. Ça me dit, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu abada. Tous les termes ont leur pesant d'or. Kitabullah wa sunnati. Je vous ai laissé. C'est-à-dire qu'après ma mort, après mon départ, ne soyez pas tristes. Je vous ai laissé le guide. Taraktu fikum. Je vous ai laissé les choses avec lesquelles, si vous y accrochez, tamassouk, c'est s'accrocher fermement. Ne pas lâcher. C'est tamassouk, c'est comme celui qui tient une corde. Il ne lâche pas parce que sinon il va tomber. Vous ne serez jamais perdu. C'est ce que nous cherchons à ne pas être égaré. On demande protection. Deux choses. Al-mardoub alayhim et al-dallin. Pour rechercher quoi? Sirat al-mustaqim, oui ou non? Mais si on s'accroche à la parole d'Allah et le hadith, les hadiths qui sont les tafsirs, les meilleurs des commentaires de la parole d'Allah, là on sera bien guidé. Et les ulama disent que l'antadullu abada, c'est même ayyam ud-dajjal. Même Dajjal est là. Il est à cet endroit. On n'est pas égaré si on reste avec sur le kahf, avec parole d'Allah. Connexion avec la parole d'Allah, par le prophète sallam, connaître Allah, ikhwani fillah, c'est un message, on le retient, c'est peut-être le plus important. Gardez un rythme et ne perdez jamais la connexion avec le ilm, la connaissance religieuse. Ce serait khasara uzma que de se, et une erreur de se contenter des a'mal sans les enrichir avec la connaissance religieuse. Et vous avez, mashallah, suffisamment. Et, alhamdulillah, parmi les meilleurs pour vous donner ce ilm, cet enseignement. Et là, donc, si on ouvre la porte à ce verset, quand Nuh alayhi salam dit à ce peuple que demandez pardon, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, ce jeune homme doit réfléchir à qui Nuh est en train de parler. À des gens qui font le shirk depuis Alfa Sanatin illa Khamsina Ama. Depuis 950 années, ils sont dans la désobéissance de le shirk, le polythéisme. Ils sont dans la désobéissance au prophète d'Allah et le manque de respect et as-sukhriya, al-istihza, manquer de respect de adab au prophète d'Allah, au prophète Nuh alayhi salam. Et malgré ça, Nuh dit, le jour où vous demandez pardon, le moment où vous demandez pardon, sachez que la porte du pardon est grande ouverte. Pourquoi se priver d'un tel enseignement et de telles promesses d'Allah azza wa jalla? Dans le verset de Az-Zumar, on reste la sourate Az-Zumar, Allah rabbi izza, il donne, subhanallah, les ulama disent que hadhi bishara tartahu laha qulubul mu'minin. Si vous cherchez une bonne nouvelle à travers laquelle vous allez trouver l'apaisement du cœur, c'est ce verset. Quand Allah azza wa jalla dit qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah azza wa jalla s'adresse aux pécheurs. Ceux qui se sont fait, j'ai pas la traduction exacte, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qui ont fait des péchés. Mais comment est-ce qu'Allah s'adresse à eux? Avec quel terme? Qul ya ibadi, ô mes serviteurs. Et qu'Allah Rabbul Izzah s'adresse aux meilleurs des croyants. Allah s'adresse à eux avec quel terme? Wa ibadur rahman. Alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Wa ibadur rahman. Qul ya ibadi, c'est le même terme qui a été utilisé pour qualifier les pécheurs endurcis et pour, pas pour qualifier, pour interpeller, pardon, pour interpeller les pécheurs endurcis et pour interpeller les pécheurs endurcis et pour interpeller ceux qui sont, mashallah, qui ont les meilleures des qualités. Le même terme. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, quand tu te présentes à sa porte, il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Il va regarder la qualité de ton taouba, de ton inaba, la sincérité de ta demande, la soumission, ton engagement, ta sincérité et tes promesses, la pureté de ton cœur. Qu'est-ce que tu promets à Allah? L'homme qui avait tué 99, vous connaissez le hadith, pas besoin de le raconter. Il en avait tué une centaine, parce que le bouc, son tête était pâlie. Il a grandi à 100. Personne lui a donné mauvais. Qu'est-ce qui fait que cette personne a dit qu'il n'y a plus de tawba pour toi? Jahl, c'était un rapide, grand orateur d'Allah. Mais Iman Billah n'était pas complet. Il ne savait pas qu'Allah est Ghafur Rahim. Quand la personne dit que j'ai tué 99 personnes, un vrai serial killer, qu'est-ce que je peux faire? Halli min tawba? Est-ce qu'il y a encore un tawba possible pour moi? Personne dit, abadan, jamais. Jamais Allah pardonne après tout ça. Son coco l'a bloqué, il l'a tué. C'est quelqu'un qui aimait les chiffrons. Et il va voir un savant. Comment faire? Enfin, on entend raconter le hadith. Personne lui dit que oui, Allah te pardonne, mais quitte cet endroit, va là-bas. Ça, c'est une des conditions du tawbah. Quitte. Si ce petit, je ne veux pas désigner des personnes avec les bras, les mains. Si ce petit groupe, elle dit ça, mais comprends-moi. Si ce petit groupe qui t'invite vers la boîte de nuit, pas où, hein, ben, évite cette fréquentation. Si c'est eux qui t'amènent vers le péché, condition pour que le tawbah soit complet, ne les fréquente plus. Donc, la personne a dit que, si, elle dit, va habiter dans ce village, il y a des gens pieux, reste avec eux, demande pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, khalas. Tawakkal ala Allah, il s'en va, il était heureux, content. En chemin, il meurt, les anges viennent, il y en a, les anges de Adab disent qu'il lui a fait 100 meurtres, les anges de Rahma disent non, il est de son cheminement vers Allah. Était-il arrivé au village? Avait-il commencé ses efforts? Il avait juste pris sa monture et pris un chemin, comme il en avait pris des centaines avant pour tuer des gens. Yani, il y avait le ikhlas et al-azm, le cœur était là. De son cœur, il dit, je maintenant, mais ma vie c'est pour Allah. La danse était sincère. Allah a jugé la sincérité, Allah l'a accepté, lui a fait accéder au Jannah. Donc, ce qu'on retient à travers ce début de verset, quand Allah interpelle le pécheur endurci, c'est avec le même terme qu'il interpelle les pieux. Pour qu'on réalise, on doit réaliser que Allah ne va pas regarder notre passé. Parce que ces péchés-là, ça n'effraie pas Allah. Ces péchés-là, ça n'atteigne pas Allah. Il y a des hadiths magnifiques qu'on ne pourra pas voir, on est clairvoyant, on a basira de ce programme, on ne pourra pas voir tout. Mais Allah dit que si l'humanité se réunissait pour faire tous les péchés possibles, ça n'atteindrait pas Allah. Et là, il n'y a pas de métaphore. Et si l'homme les gens se réunissaient pour demander à Allah tout ce qu'ils voulaient, c'est comme si tu trembles une aiguille dans la mer et tu en retiens, qu'est-ce que tu as retiré? C'est-à-dire que les péchés, ça n'atteint pas Allah. Et donc, pour Allah Rabbul Izzah te pardonner l'intégralité de ta vie de gouna, quelqu'un meurt à 90 ans et à 89 ans, il réalise, il a hidayah, il demande pardon. Allah Rabbul Izzah va le pardonner. Même si les hommes vont juger, lui il a fait ça, pas maintenant, il va demander pardon. Allah Akbar, on n'imagine pas la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'Allah Rabbi Azza dit à ceux qui ont fait des péchés? Ça c'est pour nous ça. Ce verset-là, c'est pour nous tous. Hein. Ne désespérez pas de la rahma. Là, on parle de l'excès de péché. Et quelle est la qualité d'Allah qui est mise en avant? La rahma, la clémence. Pour qu'on réalise que autant on a accompli le péché, la rahma d'Allah, elle est là, elle est pour nous tous, elle est pour tout le monde. Et Allah Azza wa Jal rajoute, Inna Allah yaghfiru dhunuba. Allah rajoute jami'a, tout. Allah pardonne tous les péchés. Et Allah rajoute encore, innahu huwa al-ghafur. Allah est pardonneur. Mais ce n'est pas suffisant. Allah rajoute à la fin, avant que le Rahman était déjà rappelé, innahu al-ghafur al-rahim. Allah est le pardonneur, Allah est le clément. Qui peut venir juger quelqu'un maintenant? Qui va juger quelqu'un selon la taille de sa barbe, selon sa tenue, selon son passé, selon ses fréquentations, selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on a connu de lui? Qui peut juger que ça c'est quelqu'un d'égaré? Ittaqillah, c'est pas à lui que je dis ittaqillah, c'est aux personnes qui jugent. On ne connaît pas la clémence de notre Rabb. Cette personne pose son front sur le sol, à condition qu'il est sincère, il obtient un pardon ajib qu'on ne peut même pas imaginer. Il y avait un sahaba qui avait accompli un péché majeur à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir accompli le péché, un sahaba avait dit une parole désobligeante à son encontre par rapport au péché grave qu'il avait accompli. Pour que même un sahaba il peut se tromper. Mais la qualité du tawbah, c'est autre chose. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère contre, je ne sais plus le nom du sahaba, celui qui a osé porter une critique contre cette personne qui avait accompli un péché grave. Il dit que tu sais, cette personne a demandé un tel pardon à Allah avec une telle sincérité. Si ce tawbah-là, il a demandé avec une telle amertume, un tel remords, un tel regret, il a tellement pleuré pour cette faute que si ce tawbah-là était distribué sur toute Madina Sharif, tout le monde aurait été pardonné. Tellement ce tawbah a été nasuha, c'est un pardon sincère. Ne doutons jamais de la clémence d'Allah et du maghfirat d'Allah Azza wa Jalla. Il nous faisait dire que ça c'est Bichar, ce verset, c'est une des plus bonnes nouvelles. Tartahu laha quloubul mu'minin. Et ça remplit notre cœur de raja, d'espoir en Allah Azza wa Jalla. Cette personne ne doit pas penser, ce jeune homme, que si je fais autant de bêtises, si toutes les semaines je vais en boîte, je fais le haram, je consomme de l'alcool, j'accomplis l'adultère. Je fais ça toute l'année. Qu'Allah nous protège de ce genre de situation et qu'Allah protège nos jeunes. Mais si c'est ça ma situation, il ne doit pas se dire que je suis mauvais dans ma nature. Non. Parce que s'il se dit que je suis quelqu'un de mauvais, il ne changera jamais. Il ne pensera jamais comment retourner vers Allah. Parce qu'il va se dire qu'il y a des gens bien de ce dunya et il y a des gens qui n'ont pas le même taqdir. On a des ulama, on a des hafiz du Coran, on a des gens qui mangent Allah, et moi je suis l'autre personne. Et très souvent, quand les gens, entre guillemets religieux, ils ont un jugement sur ces gens, et ce jugement se limite parfois au regard, un regard défiant. On est en train de creuser un fossé entre les religieux et, j'aime pas dire les pécheurs, mais entre ces personnes-là. Et à un moment donné, on creuse un tel fossé que ces personnes-là ne veulent plus entendre parler de barbus ou de religieux du tout, parce qu'ils sont dégoûtés. Ils disent que ces gens se croient supérieurs à nous. Ben peut-être qu'ils sont supérieurs à nous. Dans ce cas, laissez-nous de notre délire, laissez-nous de notre tchakkar, comme on dit. Laisse, halas. Eux, ils auront tout et nous, on n'a rien, c'est pas grave. C'est notre destin. Et puis, à un moment donné, il y a peut-être Iman Billah qui commence peut-être même à sortir. Si les gens de Dine ne tendent pas la main, on risque de creuser ce fossé et nous aurons une part de responsabilité. Ça s'appelle commence à tendre la main à pécheurs. Da'wa ilallah, oui ou non? La da'wa c'est ça aussi. La da'wa c'est pas uniquement le rituel qu'on connaît. Amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Prends cette personne par la main, amène-le chez toi, partage un repas, parle avec lui, écoute-le. Il a peut-être un passé, il a peut-être des traumatismes de son enfance, il a peut-être connu des ayam. Essaye d'avoir cette hanan, cet amour que le Prophète avait pour les sahaba, cette capacité à écouter, à diagnostiquer, à donner, à toucher les cœurs avec une parole tellement pure et sincère, remplie d'amour, qu'une personne pouvait changer, subhanallah. Et donc cette personne ne doit pas se dire que je suis mauvais en moi. Non, je ne suis pas mauvais. Personne n'est mauvais. Même si on a al-nafs qui est ammaratun bisou, mais ce nafs-là il est sous contrôle. Là, on est, notre nafs n'est-il pas sous contrôle? Shaitan, mais là, est-ce qu'il fait waswasa? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité que d'être pécheur. Abadan wallah. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'il se laisse entraîner par le diable, Shaitan. Et on doit juste lui dire que tu es quelqu'un de bien, toi. Tu sais pourquoi tu es quelqu'un de bien? Et là, on va vers la dernière page du programme. On doit avoir une des qualités, une des noms d'Allah. An-Nur, Allahu, Nuru Samawat wa al-Ard. Et dans un hadith, il dit qu'après la création des cieux et de la terre, la lumière d'Allah a rejailli. Et ceux qui ont été touchés par la lumière d'Allah, ce sont ceux qui ont eu la guidée. Ceux qui en ont été privés, ils n'ont pas la guidée. Et après, bon, on ne va pas développer la conclusion. Puiser la lumière d'Allah dans la salat, parce que la salat, Irfan Patel, hadith de temps, la salat, nourun, la salat est une lumière. Et le présent, en allant à la salat, demandez quoi? Allahumma ja'al min fawqi noura wa min tahti noura wa an yamini noura wa an shimani noura wa ja'alni noura. Demandez à Allah la lumière. Les savants disent la lumière que tu vas puiser dans la salat. Demande que tu marches depuis ta maison, parce que cette salat là il va te ravitailler. Et donc ce jeune homme, il a besoin de ce nour, de cette lumière. Il a besoin de cette lumière qui lui redonne de l'espoir. Et nous on a besoin, avec notre connaissance, de lui dire: tu sais, tu n'es pas mauvais en toi. Parce que la lumière d'Allah t'a touché, parce que c'est pour ça que tu as la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si tu es musulman, soit de naissance, soit de reconversion, c'est qu'Allah t'aime. Allah aime quelque chose qui est en toi. C'est pour ça qu'il t'a accepté parmi les ahli tawhid, parmi les ahli la ilaha illallah. Donc ne te considère pas comme quelqu'un de mal, de mauvais, qui est destiné à l'enfer. Sache que, sur un dernier hadith qu'on cite, que au début de la création, c'est-à-dire c'est même pas ta faute, c'est au début de la création, quand Shaytan a été expulsé du ciel, il a dit Inna Shaytan aqal, hadith, Inna Shaytan aqal wa izzatika, ya Rabb. Il a juré par l'honneur d'Allah, La abraha ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Je jure par ton honneur, oh Allah, parce que Shaytan, tu connais Allah? Oui, grande question. Shaytan, tu es musulman ou kafir? Plus grand musulman que lui n'avait pas. Il était auprès d'Allah. Il connaît qu'il y a Allah, Ahadu Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mais il n'obéit pas. Et voilà donc sa destination. Et il fait preuve d'orgueil et de fierté. Donc il a dit: oh Allah, je te promets, je jure sur ton honneur, je vais détourner tes ibad, tes serviteurs, tout le temps, sans arrêt. Dans un verset, il dit: La tiyana min bayn aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Ibn Kathir fait un commentaire magnifique qu'on ne va pas faire. Les quatre côtés que Shaitan t'attaque. Et c'est quoi les quatre pièges, les quatre tentatives de Shaitan? Et quelles sont, Ibn Kathir, quelles sont les tentations venant de ces quatre côtés? Revenez vers le tafsir de ce verset qui est magnifique. Il dit que Shaitan dit: je jure que je vais les détourner, madamat arwahum fi ajsadim. Tant que le rouh est encore de leur corps, je te promets, ya Allah, je vais les détourner du droit chemin. Et pourquoi Shaitan veut détourner les gens du droit chemin? Pour amener le maximum de gens avec lui dans l'enfer. Et Allah Azza wa Jal a répondu à Iblis, فَقَالَ الرَّبُّ عِزَّتِي. Hadith de l'Hakim qui a été authentifié. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. Allah Rabbul Izzah, je veux dire que لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِ. Je continuerai et je continuerai, je ne m'arrêterai jamais de leur pardonner tant que مَسْتَغْفَرُونِ, tant qu'ils me demandent pardon, ils obtiendront mon pardon. Sans condition, sans limite quantitative de péché ni de gravité. Tant qu'il demande, je vais l'accorder. Tant qu'il demande, je vais l'accorder. Mais ce jeune homme-là, il a besoin de savoir que Shaitan, c'est son rôle. Et si moi, je suis dans cet état, c'est que Shaitan m'a transporté, il m'a détourné du droit chemin complètement. Allant à l'encontre de l'enseignement que j'ai eu à la madrasa. Allant à l'encontre du tarbiyah, de l'éducation que mes parents m'ont donné. Il m'a amené très loin. C'est pas ma faute, c'est lui. Et c'est ma faiblesse avec ça. Mais même si je suis extrêmement éloigné, Allah Azza wa Jal peut m'accepter à n'importe quel moment. Le prophète m'a donné cet exemple. Un homme dans le désert. Tout le monde connaît l'histoire de la monture. Tout le monde connaît. Un homme dans le désert qui perd sa monture. Et quand vous êtes dans le désert, vous perdez votre monture sur laquelle il y a provision et vivre. Qu'est-ce que vous faites? C'est la fin. L'homme s'assoit sous l'ombre d'un arbre. Il attend. Il attend quoi? Il va mourir soit déshydraté, soit avec les loups dans le désert le soir, où il va mourir de faim ou de soif. Et au loin, après un long moment d'errement et d'attente, il voit la monture qui revient. Et il est tellement heureux c'est une nouvelle vie. Il dit Ya Rab, il remercie Ya Allah, il te remercie Allah. Ana abduk wa anta. Ana rabbuk wa ana abdi. Il se trompe, il dit Allah, je te remercie, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Le prophète sourit, dit qu'il est tellement emballé qu'il se trompe, il ne connaît plus. Ça, c'est farah. Il dit, mais Allah, vous voyez comment il était joyeux? Comment on peut dire ça? Il était euphorique. Allah est encore plus content que lui, qui retrouve sa monture. Allah est encore plus satisfait de voir cet homme qui s'était éloigné complètement dans les pieds des péchés qu'on peut imaginer. Et qui, à un moment donné, revient vers Allah. Il revient, il cogne. La parole d'Allah, il demande à Allah, est-ce que tu m'acceptes encore? Allah Azza wa Jalla est tellement content et Allah lui ouvre en grand les portes. Ikhwan et fillah, ça c'est les attributs d'Allah. On n'a pas pu développer chaque point, mais Allah est Ghafour, Ghaffar, Tawwab, Sattar et Allah est Halim. Allah est Afou. Quel doua ne pas seulement enseigner Aïcha radiallahu anha lors de la nuit, lors des nuits impaires? Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa. Et quel est le sens de Al-Afou? Les muhadithines expliquent Al-Afou. C'est Al-Kamal, c'est le paroxysme de le pardon d'Allah Azza wa Jal. La yu'ajiluhum bil'uquba. Allah voit la personne commettre des péchés, mais Allah ne punit pas. Al-Afou, c'est celui qui est indulgent. Il y a un autre nom d'Allah qui va de ce sens, c'est As-Sabour, celui qui est patient. Mais quand je dis qu'il est patient, c'est pas comme moi que je suis patient. Les noms d'Allah, les sifat d'Allah, ce sont des mots pour que l'être humain, on appelle ça en arabe, là on rend un discours un peu trop technique, Al-Fab Mushtaraka. C'est des noms communs qui permettent à l'homme de comprendre le discours. Mais après, c'est incomparable quand on parle du ilm d'Allah et le ilm de Moana, ou notre peu de ilm que nous avons. Quand on parle du Allah est Sami' Basir, et ce que nous, Allah entend, il voit tout, et ce que moi je vois, ce que je comprends, c'est pas le même, pas la même entité, aucunement. Allah, l'afou qui est indulgent, c'est malgré, et as-sabour, celui qui est patient, c'est qu'il il voit son serviteur le désobéir du matin au soir. Et Allah peut le sévir à la seconde, mais Allah est patient, Allah le laisse. Allah l'attend. Allah crée une situation qu'il le met à l'épreuve, peut-être qu'il reviendra. Ça, c'est l'indulgence d'Allah, c'est la patience en guillemets d'Allah, et c'est le maghfira, c'est le pardon d'Allah. La yu'ajiluhum bil'uquba wa yaghfiru dhunubahum fayuziluha. En plus de pardonner, Allah enlève atharaha anhum, la moindre trace, il n'y a plus de trace ni de ton livret de compte. La terre sur laquelle le péché a été accompli et qui normalement doit témoigner contre toi le jour de Qiyam, le corps qui a été témoin, qui a été, par lequel le péché a été accompli, les membres qui doivent témoigner comme Allah l'a promis dans le Coran le jour de Qiyam contre le pécheur, et les anges, personne ne garde la moindre trace ni souvenir de ce péché, parce que Allah est pas seulement Ghafour, Allah est Afou. Al-Afou, c'est enlever toute trace de ce péché jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Il n'y ait plus rien, rien, rien. Ça c'est le karam d'Allah, ça c'est la générosité d'Allah. On a besoin de dire à ce jeune homme, justement, demande un tawbatul nasuha, et tout ce que tu as décrit comme péché là, il ne restera plus une trace. Tu ressors avec un livret de compte vierge, total, même pour le zina, même pour le zina, même pour l'alcool que j'ai bu tous les samedis soirs pendant 10 ans, même pour l'alcool que tu as bu tous les soirs pendant 10 ans. Et même si dans ton sang il restera des traces, mais dans ton livret d'action il n'y aura plus une seule trace, parce que lorsqu'Allah décide de pardonner, c'est le pardon qui est comme un yali qu'ubihi azza wa jal. Là également, le pardon comme cela sied à Allah, comme cela appartient à Allah, à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Et quand Allah décide de rétribuer, comme cela appartient à Allah, qu'on ne peut pas imaginer. Et quel est ce verset? Une fois on avait dit ça, tant bon. Quel est ce verset qui nous laisse complètement abasourdi, qui nous, parfois, nous interpelle? Comment Allah peut pardonner autant? C'est quoi le programme? Laylatul Qadri khayrum min al-fichar. Une nuit, c'est mieux que al-fichar. 1000 mois, ça fait combien d'années? Près de 80 années. C'est-à-dire, il y a un problème là. Mathématiquement, ça passe pas. Ça passe pas. Une nuit égale une vie. 80 années, c'est l'espérance de vie d'une personne. Et encore, qui sait qui fait les badettes 80 années? Il faut que la personne meure à 98 ans ou 100 ans. Enfin, vous comprenez? Une nuit égale une vie de amal saliha. Oui. Chose qui est notre l'entendement n'accepte pas. Mais ça c'est mathal, un exemple qu'Allah nous a donné, qui nous choque, qui nous interpelle, pour qu'on réalise que quand Allah donne, c'est un autre niveau, c'est au-delà de tout ce que les créatures peuvent comprendre. Et il n'y a pas de métaphore là, il n'y a pas d'exemple, c'est le texte brut pour qu'on comprenne la générosité d'Allah Azza wa Jal. Expliquez à ce jeune homme justement qu'Allah est Halim, dernier nom d'Allah, connaissez de voix, Al-Halim, avec un ha et pas Alim. Alim, c'est celui qui connaît, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal également. Mais là on parle de Halim avec un ha, traduit par celui qui est de la patience et qui est indulgent. Ça rejoint un peu les autres sifat avec quelques spécificités. Et là, il y a un verset de sourate Al-Fatir. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Si Allah devait punir chaque personne au coup près, un péché, une punition, il n'y aurait plus un être vivant sur cette dunya. Mais Allah est patient, indulgent. Allah est Ghafur Rahim. C'est ce discours-là que ce jeune a besoin. Il n'y a pas besoin qu'on le secoue, qu'on le menace, qu'on lui parle de l'enfer. Au contraire, parle-lui de l'enfer, il va dire que il va peut-être dire des paroles de kouf. Allah le protège. Parce qu'on n'a pas su adopter le discours. Invitez-le vers Allah, vers l'amour d'Allah, vers la clémence d'Allah. Iman billah rend le cœur d'une personne, c'est la vie de la personne qui va changer. Ainsi donc, tellement de hadith qu'on est obligé de passer, de zapper Allah, Allah et de verser Allah alimun halim. Pourquoi est-ce que halim a été annexé à alim et ainsi avec halim al ghafoura? Subhanallah, il y a le nom d'Allah qui est karim, justement, que toutes les nuits Allah attend celui qui demande pardon. D'une façon générale, on a compris que si une personne développe iman billah, ben ses actions auront un autre niveau. Cette connexion avec Allah de Subhanahu Rabbi al-A'la, de développer le nom d'Allah al-A'la, et faites le lien entre, hein, ça n'avait pas eu le temps de dire la dernière fois, entre la position la plus basse de la salah, c'est quoi? Le sujda. Et la position la plus remplie d'humilité, on va dire, pas avilissante, hein, mais remplie d'humilité. La partie la plus noble de l'homme, c'est le visage. Mais ce visage, Allah te demande, pose ce visage sur le sol, c'est-à-dire l'endroit où on met les pieds. Pose le visage. Et quand tu es au plus proche et au plus bas de ce dunya, dis Subhan Rabbiyal A'la, celui qui est le plus haut. Al-A'la ne sera pas avec Al-Ulu, comme Allah est haut. Pour qu'on réalise qu'on est makhlouq et on se soumet devant Khaliq. Je suis rien, l'effacement de soi devant la grandeur et devant la puissance d'Allah. Et donc cela, cette connaissance développée, Iman Billah, sera profitable à la personne qui est dans les péchés. Le cas de ce jeune homme sera profitable à nous, les personnes qui pratiquent, pour donner un sens à notre pratique, pour donner un sens enfin à mon recours, pour donner un sens enfin le Rabbana, non, le Sami'a Allahu liman hamida. Normalement, on doit le dire avec une conviction, avec l'espoir. Sami'a bima'ana, Allah a accepté les louanges que j'ai fait, conviction qu'Allah m'a accepté. Le hadith de lequel il est dit que le Prophète sallam, une position qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas trop l'habitude de donner l'importance, les adhkars entre les deux sujda, qu'on est assis, kaïda. Pour Assam disait, Rabbi Gfirli, dans d'autres versions, Allah Gfirli, warhamni, warzukni, wa'afini. Ben, donner un affil, ça on peut faire. Quand on fait tahajjud le soir, faites-le. Dit que le Prophète passait énormément de temps entre les deux kaïda en demandant pardon. Wa kan yalihu, al-ilha' fi du'a, c'est demander avec insistance, persévérance, avec cœur. Quand est-ce qu'on a pensé à faire ça? Quand est-ce qu'on a pensé dans notre sujoud de, en plus de dire Subhan Rabbi al-A'la, de dire d'autres adhkars et de ressentir qu'on est devant le Rabbul Arsh al-Azim et que c'est une chance qu'Allah nous donne d'être dans cette position et de l'invoquer, subhanallah. Donc cette connaissance iman billah à travers l'étude des asma wa sifat, à travers l'étude de la parole d'Allah, la parole de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, ça va nous donner un autre niveau de iman. Nos a'mal seront les mêmes, mais ce seront des a'mal avec de la lumière, avec le nour qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde. Une anecdote, j'ai écouté ça dans un dars hier soir d'un cher, grand cher, qui est un de nos professeurs qui s'appelle Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, de la région de Badr certainement. Il dit qu'en allant à la Masjid Nabawi, il y a quelques temps, dans le mois de Ramadan, en chemin, les embouteillages, il voit un groupe de jeunes. Nuit impaire, il précise. Nuit impaire, il en plus dit que 27e, c'est la nuit où il y a plus de probabilité que ce soit la nuit du destin. J'étais avec mon père, avec ma famille. Je vois des jeunes d'un hadiqa, un jardin, ils sont en train de s'asseoir, ils écoutent la musique. Alors qu'ils vont au Madina Bawi, nuit impaire. Ils n'en pouvaient plus, s'arrêter. Il est descendu, il a dit, Ya Shabab. Et ô jeune homme, même si vous n'allez pas à la masjid, vous n'allez pas faire plein de bonnes choses, mais au moins, éteignez la musique. N'écoutez pas ça. Faites pas de péché là ce soir, là, pas une nuit où tout le monde essaie d'avoir quelque chose avec Allah. Les gens ont dit, khalas, c'était quelqu'un de très connu à Madina. Ils ont accepté, ils n'ont pas essayé de répondre à autre chose. Après, le cheikh leur dit, je vous enseignais une chose, pas un dars, pas un bayan. Lisez ce doua. C'est le doua de des nuits, puis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Elle dit, répétez. Ils ont dit, non, c'est pas suffisant. Répétez encore, jusqu'à ce que vous connaissiez le doua correctement. Ils ont dit. Elle dit, maintenant, continuez à répéter et répétez autant de fois. Par respect, un peu, on va dire pour le cheikh, ils ont lu, ils ont dit. Le cheikh dit, je suis monté là, je parle. Elle dit, c'est ce que je pouvais faire au mieux. Une da'wa, amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Elle dit, des années après, je parle, il y a le nom du village, je ne me rappelle plus. Dans un village, pas dans quelle région de Outol Makkah, Medina, pour un programme, un jeune homme vient s'asseoir auprès de moi. Et je vois, c'est un jeune homme, mashallah, avec signe de piété. On voit que c'est Chab Salih. Cher, tu te souviens de moi? Elle dit, pas vraiment. On voit tellement de gens. Elle dit, moi, c'était le jeune homme qui était assis avec un groupe de jeunes, écoutant la musique, 27e Ramadan, telle année. Tu as pris la peine de descendre de ta voiture, tu es venu me voir, nous voir, et tu nous as fait cette invitation. Il dit, j'ai lu ce doigt, et Allah m'a accepté. Allah m'a donné la possibilité de trouver le pardon pour tous mes péchés, et Allah m'a mis sur le droit chemin. Et il a dit, cher, ce que tu as fait pour moi, c'est, tu as sauvé moi, alors. Il y a des gens qui sauvent une personne de ce dunya, de la noyade ou des dettes. Il y en a d'autres qui arrivent à en sauver d'autres, à sauver leur éternité, le akhira. Il dit, ben, tu as sauvé moi. Et depuis ce jour, alhamdulillah, Allah a mis le nour dans mon cœur et les péchés me sont détestables et maintenant je suis dans le droit chemin. Donc, ikhwan et fillah, ne doutons pas de la clémence d'Allah et n'oublions pas que les paroles que le prophète nous a enseignées, c'est adka, ce sont les meilleures. Ce soir, c'est une nuit père, mais toutes les nuits de la dernière décade, le prophète les faisait les ibadas avec autant d'intensité. Ne faisons pas le tri entre nuit père et impère. Levons nos mains et demandons avec Allah Azza wa Jal, avec sincérité, Ya Rabb, ouvre mon cœur pour la connaissance, pour l'ilm, pour apprendre à te connaître, remplis mon cœur d'amour pour toi. Plus important, c'est que notre cœur se remplit d'amour à travers chaque adoration. Donne-moi la basira, la clairvoyance. Accepte-nous, Ya Allah, accepte-nous durant ce mois béni. Accepte nos qiyam, accepte nos siyam. Pardonne nos manquements, nos erreurs, nos péchés. Ya Allah, accorde-nous istiqama, la fermeté de ces bonnes actions. Ya Allah, qu'après le Ramadan, je reste ferme dans les bonnes œuvres. Et tous les péchés que on avait l'habitude de s'en éloigner durant ce mois béni que je faisais avant, qu'Allah nous donne la force, la hawla wa la quwwata illa billah, qu'Allah nous donne la force de rester totalement éloigné de ces péchés et qu'Allah nous permet d'avancer vers lui, yawm ba'da yawm, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour l'ange de la mort vienne reprendre notre âme et qu'on est dans le droit chemin. Allahumma amin. Qu'Allah accepte ces invocations, qu'Allah les accepte pour nous, pour tous nos frères et nos sœurs. Qu'Allah guide nos jeunes qui sont dans l'égarement. Qu'Allah guide nos mères, nos sœurs. Qu'Allah nous accorde la guidée, la hidayah. Qu'Allah nous accorde son pardon, nous couvre de sa clémence. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance, nous permet de combiner entre les actions et la connaissance, le ilm et al-iman billah. Wa tawfiqi illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.